Je pars ça. On s'en va dans Galates, au chapitre 3. Nous lisons les 5 premiers versets. Ça va être le commencement de ce message. Donc, on lit au verset 1. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Là, le son, je peux enlever ça, ça ne marche plus? C'est ça que tu as dit? OK. On va prier. Seigneur, toi, tu parles au cœur, puis tu fais entendre. Merci que tu parles directement à chaque personne ici. Et c'est toi, Seigneur, qu'on veut entendre, ta douce voix. Seigneur, merci que tu es souverain, tu contrôles toutes choses. Et merci qu'on peut se confier en toi, Seigneur, pour ce temps dans ta parole, sachant que c'est ta parole vivante et tu es le Dieu vivant qui fait ton œuvre bienfaisante et Seigneur, qui est toujours là, Seigneur, pour être exactement au bon moment, faire, Seigneur, ce qui est selon ton plan. Donc, on s'en remet à toi, Seigneur. Puisses-tu assujettir à toute résistance, toute insistance de notre part, qu'on fasse silence devant toi. On te remercie, Seigneur, qu'on a cette joie d'être en ta présence et de pouvoir s'asseoir à tes pieds, comme on a prié tantôt, choisir la bonne part comme Marie l'a fait. Sois-en glorifié, Seigneur, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. On va commencer assez clairement et directement. Paul a dénoncé dans l'Épître aux Galates ce que beaucoup appellent l'hérésie des Galates, ou je ne suis pas sûr qu'on peut dire l'hérésie galatienne, là. Je pense que ça ne se dit pas trop, là, mais l'hérésie de la Galatie, l'hérésie des Galates, qui est un problème identitaire. Au Québec, on parle des fois, hein, la crise identitaire, l'identité, puis tout ça. Ça, c'est des choses nationales, des choses politiques, mais le plus important, c'est quand on est un enfant de Dieu, nous avons une nouvelle identité. C'est le thème du mois de novembre, « Christ, notre identité ». Et les milieux chrétiens, toutes dénominations confondues, malheureusement, passent à côté de leur nouvelle identité. Parce qu'on trouve notre identité dans toutes sortes d'autres choses. On fait ci, on fait ça. Nous, notre église, on fait ça comme ça. Non, nous, on fait ça comme ça, puis ça. Pis nous, moi. Le problème, c'est le problème d'identité. C'est moi et non pas Christ qui vit en moi. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble parce que je crois que la chrétienté historique et actuelle s'est éloignée de la doctrine et de la pratique, on pourrait dire paulinienne, parce que c'est vraiment Paul qui l'a développé le plus, de notre identité à Christ, en sa mort et sa résurrection. Et c'est quoi en fait? C'est que quelqu'un, quand, vous savez, hein, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. En Christ, c'est les deux les mots les plus importants de l'œuvre rédemptrice de Christ. Nous étions en Adam, morts dans nos offenses et nos péchés, et le salut, nous sommes placés en Jésus-Christ. On a changé complètement de famille, d'identité, d'appartenance. La rédemption, ça prend quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est sujet à tout ce qui va avec la chute, et il est placé dans le bien-aimé, avec une vie nouvelle, une nouvelle identité. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde, non seulement aujourd'hui, mais pendant tout le mois de novembre. Et cette identité, cette nouvelle identité en Jésus-Christ commence à la croix. Ou pour le dire autrement, la vieille identité en Adam prend fin à la croix. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on est un enfant de Dieu, nous sommes morts au péché, morts avec Christ. Non seulement Jésus est mort pour nous, mais on est mort avec Jésus. Non seulement il est ressuscité, mais on est ressuscité en nouveauté de vie avec lui. Et la loi, qui est la puissance du péché, n'a plus de pouvoir sur nous. Et la grande tragédie de tout milieu chrétien, c'est que on ignore cette grande vérité de différentes façons, pour différentes raisons. Ou pour le dire autrement, on est prompt à retourner au règne du moi dans notre vie. Là, je parle, parlons chrétien, là. OK? N'importe quel chrétien, peu importe le milieu duquel il vient, c'est facile de retourner au règne du moi dans ma vie. Puis on peut mettre un petit peu de sauce chrétienne, trois saveurs, c'est un cornet à trois boules. OK? Il y a la sauce réformée, la sauce baptiste, la sauce pentecôtiste. OK? Mais c'est toute la même affaire. Non, mais pour de vrai, là, c'est pas... Parce que je veux dire quelque chose d'important. Le problème, c'est moi qui vis à la place de Christ. Donc, pensez pas, là, ah oui, les légalistes, là, ah, les méchants qui font ci, puis... Non, pensez, avec le message aujourd'hui, pensez à vous, avec votre tendance propre. OK, on peut-tu faire ça pour le message? Pas penser aux autres, comment ils auraient donc besoin du message, puis comment... C'est vrai que c'est donc... Ça, quand on fait ça, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle à nous personnellement. OK, donc, mettons le chapeau aujourd'hui de dire, OK, le moi dans ma vie, là, est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce qu'il décide? Est-ce qu'il, comme on dit en bon québécois, est-ce qu'il colle les shots? Ou est-ce que vraiment c'est Christ? Et ça, je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui, on met la table. La semaine prochaine, on va s'en aller dans Romains 6, c'est pas ça, Romains 7, puis ensuite Romains 8.
Amen.
On commence toute cette aventure-là, cette route-là, avec d'abord quelques petites remarques d'introduction. J'ai dit qu'on va aller dans Romains 6, 7, 8. Mais savez-vous que, malheureusement, la majorité des chrétiens, et moi j'ai vécu longtemps comme ça, vivent dans ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle l'expérience Romains 7. Ah, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres cette autre loi qui combat contre la loi de mon entendement. Là où est-ce que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Puis là, je suis misérable, puis là, c'est comme, je tire d'un bord, je tire de l'autre, j'aime Dieu, je veux faire le mieux, puis ça marche jamais. L'expérience Romains 7. Ça arrive lorsque nous prenons, OK, nous comprenons la bonne loi de Dieu, et je l'ai souvent dit, et qu'on en fait un mauvais usage. Ou pour le dire autrement, lorsqu'on prend la loi comme une règle de vie, puis là, quand je dis loi, ne pensez pas seulement au code de loi, la loi morale, la liste dans votre milieu chrétien de ce qui est attendu de vous autres. OK? Certains milieux de chrétiens, on s'attend à ça des chrétiens. Ça veut dire que tu es un bon chrétien. À la sauce, à la sauce, à la sauce. OK? Fait que quand je dis loi aujourd'hui, pensez pas juste là au code moral, puis quelqu'un qui fait tout bien. Non, ce qui est attendu de vous autres dans certains milieux chrétiens, le faire, la performance, je fais, donc je suis. C'est faux, OK? Puis la Bible dit pour, de la loi, puis on l'a lu, celui qui fait ces choses vivra par elles. On a vu ça dans Galates, n'est-ce pas? Alors que la Bible nous dit non, celui, en fait, c'est le juste vivra par la foi, pas par les œuvres. Et donc, je peux prendre la loi, la loi, on va dire ici, comme je viens de l'expliquer là, en général, comme une règle de vie. Et là, savez-vous ce que ça va donner? Lorsque je prends la loi, un code de conduite, marcher selon ce qui est attendu de moi, comme une règle de vie, je donne la place au moi de régner dans ma vie. Parce que j'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout appris ce que j'avais à faire, selon les attentes de moi, dans ce milieu-là, ce milieu-là, ce milieu-là. Puis là, ben, je suis un bon chrétien parce que je fais ça. Savez-vous, dans notre vie, là, la seule chose qui est bonne, c'est Jésus en nous. Tout ce qu'ils ont fait qui est bon, c'est lui. Le reste, s'il y a un blâme, ça tombe à nos pieds. C'est pour ça que Paul, il dit dans Galates 2.20, c'est plus moi, c'est plus le moi, c'est plus ma volonté, ma pensée, mes désirs. C'est Christ qui vient à moi, sa pensée, sa volonté, ses désirs. Et ça nous pile toutes ses orteils. Personne n'est exempt d'être heurté par ça, parce que notre nature fondamental va contre ça. Notre nouvelle nature, il prend plaisir. C'est pour ça que dans Romains 7, il est tiré d'un bord puis de l'autre. Parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais cette autre loi le rend impossible. Maintenant, toujours en guise d'introduction, savez-vous, on a négligé ces vérités, tout milieu confondu. Il n'y a personne d'exempt, il n'y a personne de meilleur que d'autre. On s'égare juste de manière différente. Mais c'est de l'égarement pareil. Mais il y a tellement une bénédiction dans le fait de croire et de vivre selon les faits de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit, considérez-vous, là, par la foi, là, comme mort au péché et vivant pour Dieu. On a changé de mal. Le péché n'est plus la puissance qui dirige ma vie. Maintenant, c'est le bon berger. C'est Dieu, Jésus lui-même, qui est celui qui dirige ma vie. Et à cause de ça, je peux avoir une conscience pure, Hébreux 9,14, parce que Christ a donné un sacrifice parfait par un seul sacrifice. Je vous le lis. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça nous donne une joie parfaite. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes animés d'un amour parfait que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On lit aussi dans 1 Jean, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Parce que tout ce que Dieu fait avec nous est parfait. Son œuvre, elle est parfaite. Pourquoi parfaite? Pourquoi? Parce que lui est parfait. Écoutez aussi, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à tout homme, à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Cependant, ce n'est pas une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Ça fait bizarre à dire, c'est les mots de la Bible, nous sommes les parfaits. Puis c'est pas pour se prendre pour un autre, c'est que Dieu, son œuvre est parfaite. Nous, on ne l'est pas, on en est douloureusement conscient. Mais gardons nos yeux sur celui qui est parfait et qui sauve parfaitement. C'est encore les mots de la Bible. Hébreux 7, 25. Donc, je veux consacrer, comme je le disais, tout le mois de novembre à cette question fondamentale de notre identité, ou je pourrais dire autrement, où je trouve mon identité. Où je la trouve? Qu'est-ce qui me définit? Est-ce que c'est ce que je fais? Ça, c'est tout le domaine, je disais, comme la loi, la performance, les choses. Ou de ce que Dieu... Est-ce que mon identité, je la trouve dans ce que Dieu a fait avec moi, en moi, pour moi? Et c'est ça, Romains 6 à 8. Puis là, aujourd'hui, on va commencer avec trois vérités fondamentales à connaître et à comprendre concernant Christ, notre nouvelle identité. D'abord, comprenons, la première vérité, c'est il y a une erreur qu'il faut qu'on connaisse. L'erreur, c'est prendre la loi comme une règle de vie. Et comme je le disais, là, ça, c'est une erreur fondamentale de tout chrétien, de tout milieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardons d'abord dans Galates au chapitre 3, on va lire les versets 10 à 14, ou relire, je devrais dire. 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. » Puis là, comme je vous disais, ne pensez pas seulement, mettons, à un pharisien, puis à quelqu'un qui est là avec la loi, puis tout ça. Pensez à toutes les attentes qu'on peut avoir dans un milieu chrétien, de dire « Un bon chrétien, ça fait ça. » OK? Parce que c'est ça l'idée, là. C'est le faire. OK? Et non pas ce que Christ a fait. Et que nul ne soit, verset 11, nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède point de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, mes amis, là, c'est l'essence de l'erreur qui nous égare. Fais ça, puis là, tu vas être un bon chrétien. Fais ça, tu vas avoir la vraie vie. Fais ça, tu vas être content. Alors que c'est ça l'erreur fondamentale. Non, c'est Christ a fait donc. Il y en a un, c'est moi le départ, l'autre c'est Christ le départ. Peu importe la saveur qu'on met sur notre Sunday, ça revient à la même erreur. C'est le principe que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Christ nous a racheté, verset 13, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ok, on s'entend, tous les chrétiens, je parlais de toutes dénominations, tout le monde s'entend là, dans les milieux évangéliques, réformés et compagnie, là, pour dire que on n'est pas justifié par les œuvres, n'est-ce pas? Donc, comment avoir la vie par Jésus-Christ? C'est par la grâce, au moyen de la foi, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord là-dessus? C'est par la foi seule. Mais là où il y a des divergences, et même, je dirais, souvent il y a de la confusion, c'est par rapport à la sanctification. On s'entend sur comment avoir la vie, mais comment vivre la vie, c'est là qu'il y a de la confusion. Comment vivre la vie? Il y a cette erreur de prendre la loi comme une règle de vie. La majorité des chrétiens s'entendent, quand on parle de sanctification, qu'on n'est pas tenu de garder la loi cérémonielle. Je ne sais pas si vous avez à faire des sacrifices ce matin à l'Éternel pour lui être agréable. En tout cas, la dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas entendu ça dans les environs. Je ne sais pas si vous observez toutes les fêtes, les lunes et les choses de même. Non, je ne pense pas, mais c'était dans le Nouveau Testament, ça revenait souvent. Donc, on s'entend pas mal tout là-dessus, mais là, où est-ce que souvent on va dire, mais la loi morale, puis là, écoutez-moi bien, là, on rejette pas la loi morale, mais est-ce que la loi morale est mon standard de vie, ma règle de vie? Je sais pas si vous avez peur de répondre, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, mais pensez à ça. Hey, la bonne loi de Dieu, là, on sait que la loi est parfaite. Les 10 commandements, peut-être ça veut dire qu'il n'y a rien, OK, à redire là-dessus. Mais, ce qui arrive, c'est que, comme je dis, avec toutes les attentes dans les milieux chrétiens qu'on a autour de ça, on dit, voici ce qu'un chrétien doit faire. Il faut que tu fasses ça, si tu veux vivre. Pourtant, c'est un fait établi que Christ nous a libérés de la loi. Je vous lis Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant sur la croix. Écoutez aussi Galates. Ben, on va aller voir Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Aussi le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Et je dirais que la pire chair dans la vie d'un chrétien qui aime le Seigneur, c'est pas la grosse chair méchante qui fait des grimaces. C'est la chair toute belle, polie, qui fait des belles remontrances, toute bien aux autres, puis qui essaie donc de servir Dieu de son mieux par ses propres forces en laissant moi au contrôle. Ça, c'est la pire chair qu'il n'y a pas, parce qu'elle paraît bien, elle est justifiable, puis on ne voit pas, mais voyons donc, il n'y a pas de problème avec ça, je fais des bonnes choses. Le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est qui est-ce qui est au contrôle. Et un peu plus à suivre dans un instant là-dessus. Dieu, en Jésus-Christ, nous a libérés de l'esclavage et des conséquences de la loi qui pesait contre nous. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est pas longtemps, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour ça qu'il y a eu le concile de Jérusalem. Ça dit qu'il y a des gens comme ça que les apôtres n'avaient pas envoyés, qui troublaient, on a vu ça hier avec les jeunes, hein, qui ébranlaient et qui troublaient l'âme des croyants. Pourquoi? C'était des judaïsants, c'était des gens qui voulaient remettre les chrétiens sous le joug de la loi. C'est « Jésus, c'est beau, mais tu as besoin de plus. » Puis eux, ils avaient leur recette. Puis ça, je vous dis, il y a différentes recettes chrétiennes, mais c'est Jésus plus. Maintenant, comprenez, là, c'est pas une question de faire le bien, faire le mal. De dire un chrétien devrait jamais faire le mal, devrait jamais excuser le mal, devrait jamais excuser le péché dans sa vie. OK? Quand je parle des choses que je parle ici concernant la loi, c'est pas qu'on est antinomien et qu'on dit que la loi, c'est pas bon. La question, c'est... c'est quoi mon rapport à la loi? Sous quelle autorité je me place? Parlons de soumission. À quoi ou à qui je me soumets? Parce que regardez ce que c'est, écoutez ce que ça dit dans Romains 7-6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servons plus sous le. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous la lettre qui vieillit. On n'a plus le même rapport à la loi. La loi nous condamnait pour nous amener à Christ. Maintenant, on était dégagés et maintenant. Le rapport qu'on avait à la loi n'est plus le même parce qu'on était dégagé de son emprise. Maintenant, on est lié à l'époux. On a été racheté. Fait qu'on n'a plus ce même rapport à la loi. Parce que la loi avait un but temporaire de nous conduire à Christ. Maintenant qu'on est à Christ, le rapport n'est plus pareil. Ça veut-tu dire, ah ben je fais tout le mal que je veux? Non, justement, Romains 6, 7, 8 répondent à ça. Tu sais, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. Ne savez-vous pas que vous qui. Être mort avec Christ, on a été affranchi du péché, puis c'est pas pour vivre dans le péché. On va développer ça à travers les prochaines semaines, mais je voulais amener ça en partant, puis il faut comprendre que ceux qui sont libérés de la loi du péché servent en tant qu'enfants libres. On a été libérés afin de servir Dieu dans la justice, l'amour, la sainteté. La loi, elle est dans nos cœurs. On prend plaisir. C'est ce qu'on désire. Je vais vous donner un exemple, OK? Vous savez que la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un exemple. La loi nous dit que Dieu déteste le vol, n'est-ce pas? Hein? Tu ne déroberas point. Mais est-ce que la loi me libère du vol? Non, parce que dans mes membres, dans ma chair, réside cette passion pour le vol. Ben là, je suis pas en train de vous confesser, là. Ben, en fait, oui, c'est dans la nature humaine. Non, mais c'est vrai, dans mes membres. Non, mais c'est vrai, c'est le péché qui est en moi. Mais là, écoutez bien, Dieu m'a libéré de la loi du péché en me faisant mourir avec Christ sur la croix. Donc, maintenant, je suis plus asservi, je suis plus esclave de ces passions dans mes membres parce que je suis mort à ces passions et maintenant, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai des nouvelles passions. Dieu fait une œuvre de grâce où est-ce qu'il enlève puis il remplace Dieu. C'est son œuvre de grâce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Donc, je suis mort en ce qui concerne la loi et maintenant, je suis vivant en ce qui concerne la justice. Et vous savez, pour bien des chrétiens bien intentionnés, on parlait de ça hier avec les jeunes. Les pires pièges pour tomber dans ce qu'on parle aujourd'hui, le bon usage versus mauvais usage de la loi, c'est pas pour quelqu'un qui s'en fout et qui veut vivre au gré de ses désirs. Non, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur et qui veut plaire à Dieu. Qui veut vraiment, mais c'est ça le problème. C'est lui qui veut, c'est lui qui essaye. La vie chrétienne, c'est pas d'essayer plus fort. La vie chrétienne, c'est pas la chair version améliorée. La vie chrétienne, c'est la chair crucifiée. Puis c'est Christ qui vit en nous, c'est ça. Christ est la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une amélioration de notre nature adamique. C'est l'éradication de notre nature adamique. Puis Dieu nous a donné une nouvelle nature en Jésus-Christ, son Fils. Donc, bien des chrétiens bien intentionnés, imposent la loi des œuvres en tant que règle de vie. « Fais ceci et tu vivras. » Alors que quoi? La réalité, c'est que la loi, c'est une règle de mort. Si on l'a lu, là. Si on veut s'attacher aux œuvres de la loi, on est maudit. Ça conduit à la mort. Je veux dire, c'est clair, on l'a lu, c'est ce qu'il explique. Puis ça m'amène au deuxième point, justement, que je veux qu'on regarde, parce que la loi, là, sa puissance, c'est le péché. C'est que la loi, puis là, je vous le lis, attendez un peu, je l'ai écrit ici. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. C'est que la loi, en me disant, fais le pas, le péché qui est dans mes membres, saisit l'occasion et dit, ah ben moi j'ai goût de le faire. C'est ça le but de la loi, c'est pour nous révéler notre condition pécheresse, pour nous conduire à Christ, le libérateur. C'est simple de même. Donc l'erreur, c'est de prendre la loi comme règle de vie. Maintenant, le fait, la loi est une règle qui mène à la mort. C'est ça le but de la loi. Mais écoutez ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pensez-y, si je pouvais avoir le salut par mes œuvres, je pourrais me glorifier devant Dieu. Je peux avoir la sanctification par mes œuvres, j'aurais aussi sujet de me glorifier, mais en Christ, c'est tout lui. Il n'y a personne qui se glorifie dans le Seigneur parce que c'est pas moi qui vis, c'est pas moi qui est meilleur qu'un autre, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand que Christ agit en moi, moi j'en suis humilié parce que je vois que c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Vous remarquerez que quand on tombe dans le piège de la comparaison puis de dire « moi j'ai cette liste-là puis j'ai fait, moi j'ai cette liste-là puis j'ai fait », ça donne des querelles, ça donne de l'orgueil, ça donne des frictions. Pourquoi? Parce que le « moi » il règne, puis des « moi » qui s'entrechoquent, ça fait pas quelque chose de beau. Mais quand Christ règne, ça donne la vraie unité, ça donne la vraie vie. Et vous savez que si on se lève un matin et on veut vraiment de tout notre cœur, bien, comme je disais, plein de bonnes intentions, plaire à Dieu avec ce qu'on fait, la Bible nous dit que c'est impossible. Car ça dit, chose impossible alors parce que la chair, le moi, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non par la chair, non par moi, non par ma volonté, ma pensée, mes émotions, mais par l'esprit, la pensée de Dieu, sa volonté, ses émotions, ses désirs. C'est ça la clé. Puis comme je vous dis, là, tout le monde s'entend, là, les pécheurs ne sont pas justifiés par les œuvres de la loi, hein? Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est tout aussi évident que les saints ne sont pas sanctifiés par la loi des œuvres, par ce qu'ils font, par une règle de vie à la source de leur milieu. Est-ce que Paul a dit « car la loi c'est ma vie » Non, il a dit « Christ est ma vie ». Est-ce que Paul a dit « cette liste-là de ce qui est attendu de moi dans mon milieu chrétien, c'est ma vie. » Non, c'est Christ. Christ est la vie chrétienne. Christ est notre règle de vie, et notre modèle, et notre pierre angulaire. Il est notre tout en tous. Vous savez, on a eu les 10 commandements par inspiration divine. Les 10 commandements sont glorieux en tant que ministère de condamnation. Ça dit, c'était la montagne, c'était fumant, c'était épeurant. On va voir ça à la fin du message. Mais ça a été donné justement pour diriger les pécheurs. Le mont Sinaï pourrait pour diriger les pécheurs au pied du mont du Calvaire, au pied de Christ, qui tombe brisé, humilié. Tu sais, si on essaye, là, au final, on va arriver, on va être brisé, humilié, puis on va tomber au pied de la croix. Savez-vous quoi? C'est l'expérience chrétienne de tellement de personnes qui ont essayé de se sanctifier, de grandir dans la vie chrétienne, puis arrivent brisés, humiliés au pied de Jésus. Mais gloire à Dieu quand ça arrive, c'est ça qui est arrivé à Paul dans Romains 7. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il était pogné avec ce corps-là, puis il ne pouvait pas s'en débarrasser lui-même, seulement par l'Esprit. C'est Christ, son Esprit en nous, qui fait ça. Maintenant, je vais amener quelque chose d'important ici. Nous qui sommes animés par l'Esprit de vie, qui marche par l'Esprit, on est libérés du joug de la loi. Quand on marche par l'Esprit, on accomplit la loi, pas comme quelque chose qu'on se met sous les épaules, mais comme le fruit de la vie de Christ en nous. Donc, ce n'est pas d'essayer plus fort, c'est de céder à Christ en nous l'espérance de la gloire. Et l'essence du problème d'avoir la loi comme règle de vie, un set de doctrines d'attente chrétienne comme règle de vie, c'est que on tombe d'une manière ou d'une autre sous une des formes de ce que j'appellerais, tu vois le dire, galatianisme, en tout cas, de l'hérésie des Galates. C'est-à-dire, voici comment j'ai trouvé pour que le moi règne, puis que c'est assez chrétien pour que je sois accepté dans mon milieu. Puis ça, mes amis, moi je vous dis, je prie que Dieu nous ouvre les yeux, Puis je sais que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux, puis qu'il continue de le faire toujours plus, parce que c'est un déclic, comme quelqu'un, vous avez déjà témoigné à quelqu'un, là, vous avez parlé de Jésus de bord à l'autre. L'autre jour, j'entendais un gars à radio que j'ai travaillé avec, puis j'ai tellement témoigné à ce gars-là, là, il était capable de répéter le plan du salut au complet. Bon, j'étais nouveau chrétien, peut-être j'aurais plus dû mettre l'emphase sur la personne du salut que le plan du salut, mais bon. Il a entendu la bonne nouvelle. Puis, on se dit, coudonc, il va-tu comprendre? Ben non, on sait que c'est spirituellement, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est pas une machination humaine, c'est pas en force de devenir rouge comme une tomate qu'on va convaincre la personne. C'est un déclic, c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est la même chose pour la sanctification par la foi, pour ce dont on parle, on va parler pendant un mois, parce que je sais que je peux en parler, peut-être ça, mais c'est spirituellement qu'on discerne de ces choses, c'est Dieu qui fait faire le déclic, puis quand ça arrive, c'est comme le fardeau s'en va, n'est-ce pas? Une sœur me témoignait de ça, « Hey, je me sens libéré, puis c'est pas parce que... il est arrivé quelque chose de bizarre, peut-être ça, c'est la vérité de Christ en elle qui l'a affranchie, puis de voir ça. Si je comprends, c'est pas une chrétienne qui est née de nouveau il y a 3 semaines. Ni 3 ans même. Amen. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. J'étais tellement content d'entendre ça. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Parce que justement, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est Christ. Christ qui vient en nous. C'est pas nous qui essayons avec toutes nos bonnes intentions, puis... C'est pas moi, Seigneur, je veux faire ça pour toi. Oui, Seigneur, il sait, puis il sait qu'on l'aime. Mais il veut qu'on arrête d'essayer, il veut qu'on arrête de se mettre à l'avant-plan, puis qu'on se cache derrière la croix et que lui prenne toute la place. Ça m'amène à un point ici bien important. Vous savez que, bon, j'ai parlé de l'hérésie des Galates. Et on pourrait dire, je n'ai parlé aussi, je pense, la semaine dernière. Tu sais, ah Seigneur, je sais que tu veux que je fasse ça parce que c'est dans ta parole, c'est clair. N'est-ce pas? La question, c'est pas nécessairement, Seigneur, je veux que tu fasses ça, dans ta parole, c'est clair. C'est, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux faire maintenant avec moi? Parce que, comme je disais, je pense que la dernière fois, j'avais pris l'exemple de parler à quelqu'un, d'aller dire, est-ce que tu veux te servir de moi, Seigneur? Parce que c'est de quoi Seigneur peut servir de nous? Seigneur n'est pas obligé de se servir de nous pour témoigner à quelqu'un. Ça se peut-tu que dans nos églises, on ait évangélisé puis fait plein d'efforts pour tout ça, mais qu'on ne s'est pas attendu à Dieu puis qu'on a fait beaucoup par la chair, peut-être de la belle chair, là, plein de bonne volonté, là, mais que finalement, c'était nous. Puis qu'on aurait pu dire 3-4 mots que Christ les dit à travers nous. Puis il aurait pu se servir de ça pour faire bien plus que ce qu'on a fait dans 1, 2, 3 journées d'évangélisation par la chair. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus lui-même a dit ça. Et je dirais que ce dont on parle, là, connaissez-vous le mot usurper, usurpation, remplacer, prendre la place? On a usurpé... Avec le « moi », on a usurpé la place de Christ dans notre vie. C'est ça ce dont on parle. Et ça vient du fait qu'on essaie de trouver notre identité dans ce qu'on fait, dans ce que les autres attendent de nous autres, dans ce qu'on a appris, c'est quoi la vie chrétienne. Est-ce qu'on a appris Christ? La Bible nous dit « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Avez-vous appris Christ? C'est simple, là. Puis même, on parlait de ça hier dans l'auto. Tu sais, c'est bon, là, les livres de parce qu'il y a des nouveaux sauvés, tu sais, ils ont été baptisés hier, puis on parlait des petits livres, là, comment, pas croissance chrétienne, le premier pas de la vie chrétienne, là, tu sais, les affaires de même, là. Tu sais de quoi je parle, là, les petits livres, là. Puis tu sais, je sais pas combien de ces livres, vraiment, dès le départ pour la vie chrétienne, tu sais, je veux dire, il faut apprendre des bonnes doctrines, faut apprendre, mais combien amènent ces vérités-là? OK, tu veux être un bon chrétien, c'est pas toi, c'est Christ qui vient en toi. Est-ce qu'on apprend ça dès le départ? On s'est posé la question, moi je me demande. Faudrait qu'on fasse le tour des livres, là, ceux qui en connaissent plus que d'autres.
Pas sûr.
Pas sûr, hein?
Non. J'en ai un chez nous, je vais te l'apporter.
OK, on va checker ça.
De 40 ans, on va voir.
Parce que finalement, comment on peut montrer, hein, c'est ça la tromperie, à un petit nouveau chrétien, de tout être un beau petit chrétien speak and span. Il a tout appris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas dire. Mais est-ce qu'il a découvert Christ en lui? Est-ce qu'il a découvert que c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui? C'est ça le grand verset, le juste vivra par la foi. Que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est tellement important. Et ça m'amène au troisième point ce matin. Non seulement il y a l'erreur de prendre la loi comme règle de vie, la loi est une règle qui mène à la mort. Ah, mais la vérité, c'est qu'on a été dégagé de la loi. Et je vous lis Romains 7:2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Puis ça, c'est utilisé comme illustration pour nous parler que on était tenu légalement à la loi, mais à cause que Christ est mort, on était dégagé de la loi. Et ça, c'est vrai pour la justification, c'est vrai aussi pour la sanctification. Et comme je disais, tu sais, quand je parlais de l'expérience Romains 7, là, spécialement Romains 7, 15 à 25. Romains 7, 15 à 25, c'est le résultat de rechercher à marcher avec la loi, se servir de la loi comme une règle de vie. Et ça l'amène toujours, toujours à un échec misérable. Pourquoi? Parce que la loi va toujours me dire la même affaire. Tu ne l'as pas. La loi, c'est ça son but. Parce que elle est faite pour qu'en essayant, là, on voit qu'on ne l'a jamais. C'est ça le but de la loi. Fait que menez-vous, méchant motivateur. Hey, pour toi, j'ai un nouvel entraîneur. Il va tout le temps te dire que tu ne l'as pas. C'est ça que ça veut dire de prendre la loi comme une règle de vie. C'est ça son rôle. Mais gloire à Dieu, elle nous conduit à Christ qui lui-même est la vie. Qui lui-même nous donne de l'espoir, qui là, parce qu'on sentait misérable, un échec, puis de la pression sur ses épaules de se conformer à ce qui est attendu de nous dans notre milieu chrétien, enfin, on trouve la vraie liberté parce que notre identité n'est plus dans ce que je fais puis ce qui est attendu de moi, mais dans ce que Christ a fait de moi. Puis c'est tellement mieux parce que ça n'élimine pas toutes les exigences morales et tout ça. C'est encore mieux. Ça va être Christ en moi, ça veut quoi? Ça va être bien mieux. Ça ne va pas aller contre la parole, ça va aller plus encore. Parce que les meilleures efforts humains ont leur certain mérite et ils arrivent à un certain point. Mais imaginez-vous Christ en nous. Il n'y a rien qui surpasse ça. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même. Et donc, cette expérience de Romains 7 dont je vous ai parlé... Que tous vivent en manière un moment ou un autre. Puis c'est pas ce que je dis. Les chrétiens, les nouveaux chrétiens, là, les Geneviève, Mathias et Jacob de ce monde-là, puis on a des nouveaux chrétiens hier, David puis Linda. Faut les partir dès le début, là, avec Christ en eux, l'espérance de la gloire. Parce qu'on peut avoir l'expérience Romains 7. Puis savez-vous quoi? On a besoin dans la mesure où est-ce qu'on est dur de comprendre. Mais on n'est pas obligé, on peut vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. On peut faire en sorte de se confier en Dieu, qu'on laisse lui régner, lui faire confiance, attendre à lui, au lieu d'essayer nous autres de se mettre comme ça avec toutes nos bonnes intentions, toute notre bonne volonté. Mais c'est toujours le moi. Ça s'apprend, ça s'expérimente. Par la foi. Il faut qu'on le vive par notre propre foi. Ça mène tout ça à un constat que... Savez-vous quoi? La chair d'un croyant... Écoutez bien, la chair d'un croyant, savez-vous qu'elle n'est pas mieux que la chair d'un incroyant? La chair, c'est la chair... C'est pour ça que je vous dis, les chrétiens, ce n'est pas des personnes avec une chair améliorée. Ça n'existe pas la chair améliorée. La chair, c'est la chair. Par exemple, on a essayé, là. Hey, nous, les chrétiens, on a appris comment avoir une chair toute belle, toute propre, toute bien habillée, puis avec une bite d'un bras, là. Mais c'est la chair, pareil. Puis, là, il y en a qui sont allés à l'autre bout. Ah, ben, ça veut dire que là, pour pas tomber de même, puis avoir l'air juste speak and span, bon, on fait pas mal ce qu'on veut. Tu sais quoi? C'est juste une autre forme de chair. C'est encore le moi qui dit, au lieu de dire de tout essayer de tout faire, tout parfait, ben je vais laisser, aller lousse. Puis c'est encore la chair qui règne, c'est pas Christ. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la chair d'un enfant de Dieu n'est pas plus spirituelle, n'est pas mieux que celle d'un inconverti. Et là, écoutez bien, je vois tellement ça, c'est tellement important, c'est lorsqu'on cesse d'être égocentrique. Puis qu'on commence à voir c'est quoi la vie christocentrique, c'est là que la vie commence. Je sais pas si je suis compliqué un matin, puis, mais finalement ça revient à ça. Là, si on peut résumer, là, le message un matin, là, tu comprends, c'est notre identité. Là. Christ est ma vie, là. C'est ça, c'est le centre de ma vie, c'est ce qui définit ma vie, c'est tout. Puis le reste, c'est égocentrique. Puis les humains, on est foncièrement égocentriques. C'est ça que je dis, on peut pas dire « Ah, ces gars-là sont plus égocentriques, sont plus méchants, sont pas fins. Nous, on est les gentils. » Non, on est juste des égocentriques avec des saveurs différentes. Il n'y a pas un gentil, il n'y a pas juste pas même un seul, il n'y a pas un chrétien qui, dans sa chair, peut plaire à Dieu. C'est impossible, la chair ne peut pas plaire à Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, et c'est par la foi qu'on vit cette vie qui plaît à Dieu. Donc, cet égocentrisme remplacé par une vie christocentrée, c'est là la vraie vie chrétienne, c'est là que la vie commence. Et vous savez que la parole révoque toute tentation pour le chrétien d'essayer de vivre sous la loi, sous sa règle de conduite, les attentes qu'il veut remplir. Pourquoi? Parce que c'est simplement un retour au règne du moi, puis la fin du règne de Christ. C'est pour ça que la Bible dit que ça mène à rien. Maintenant, avant de conclure, là, ben en fait, en concluant, je dirais, tu sais, on va regarder Romains 6, 7, 8, je vais vous encourager à lire, ben, je vous encourage dès maintenant, on peut commencer à lire, méditer Romains 6, 7 et 8. Vous pouvez aussi passer du temps dans Galates. Galates au complet, Galates 3, mais Galates au complet. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis très conscient que j'ai bien beau tout vous dire ça, puis essayer d'être donc clair, puis c'est le Seigneur qui travaille, c'est lui qui, tu sais. Mais c'est pas en vain qu'on tourne le regard vers le Seigneur, qu'on le cherche dans sa parole. Et donc, j'encourage à faire ça pour le mois de novembre, qu'on puisse vraiment goûter comment le Seigneur est bon, qu'on puisse goûter à toute la plénitude de sa vie. Et pour prendre des images en terminant, savez-vous que la loi est venue du Sinaï, la grâce a jailli du calvaire. Deux montagnes. Une qui nous condamne, qui amène à la mort, une où est-ce qu'on trouve la grâce qui nous donne la vie. Et cette grâce nous enseigne. Et les Galates insensés avaient abandonné le mont du calvaire pour retourner en arrière au mont Sinaï. En dépit du fait qu'ils avaient été témoins de la grâce de Dieu dans leur vie. C'est pas pour rien que Paul leur dit « Hey, les Galates, là, moi j'ai un message pour vous autres, là, puis je ne vais pas me tanner. » Voici ce qu'il leur dit. Ah, ben, je ne l'ai pas écrit parce qu'on est dans Galates. Dans Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je vous laisse avec un passage dans Hébreux. Je vous parlais des deux montagnes. Vous savez que tout commence avec cette histoire de montagne, justement, pour la vie chrétienne. Écoutez ce que je vais vous lire. Je vais parler de la première montagne. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur soit plus adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ça, c'est le mont Sinaï, c'est le mont de la condamnation, c'est le mont qui donne la mort. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Cette montagne, c'est la montagne, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous devez voir que Dieu s'est révélé sur cette montagne, le Dieu terrible, le Dieu trois fois saint, oui, le Dieu qui condamne le péché. Si on ne voit pas notre péché, comment on va voir qu'on a besoin d'être sauvé? Et donc, oui, ça commence à cette montagne. Oui, il faut voir notre condition telle qu'elle est, parce que Dieu le révèle, c'est ce que Dieu dit sur nous. C'est terrible. C'est un jugement qui nous attend. Donc, il faut s'humilier, reconnaître le juste verdict de Dieu et fuir au mont du calvaire. Se réfugier. Écoutez cette autre montagne. Mais vous êtes rapproché de la montagne de Sion, synonyme pour le mont du calvaire. De la grâce de Dieu, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades que forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, un matin, mon invitation, c'est simplement ceci. Allons simplement à la montagne de la grâce de Dieu, le mont du calvaire. Et c'est un chant qu'on chante aussi, hein? Sur le mont du calvaire, il était une croix. Cette croix est si précieuse. Pourquoi? Parce que d'elle jaillit la vie. D'elle a été conquérie cette mort. Le mont du calvaire, c'est la fin de la condamnation du mont Sinaï. Puis pour vous qui êtes enfants de Dieu ici, là, peut-être que vous dites, « Oh man, j'ai du chemin. C'est donc bien terrible ce que j'ai fait. J'en ai donc bien arraché. » Puis vous pouvez vivre dans la honte puis dans l'autocondamnation. Je vais vous laisser pour vous, enfants de Dieu, qui peut avoir ces pensées-là. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Paul ne pensait pas là, qu'il était parvenu, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Qu'on puisse s'approcher du Dieu vivant et reprendre espoir, peu importe le parcours, peu importe où est-ce qu'on est rendu. Le Dieu de toute grâce reçoit ceux qui s'approchent de lui par la foi, croyant qu'il rémunère, qu'il restaure, qu'il ravive, qu'il redonne espoir. Amen?
Amen.
Seigneur, tu es merveilleux parce que tu t'es révélé à nous, oui, dans ta colère contre le péché, oui, avec le mont Sinaï terrible. Oh, mais merci que ça n'a pas fini là. Merci que sur le mont du calvaire, il est une croix et que cette croix est tellement précieuse parce que d'elle jaillit la vie, la vraie. Et merci que la mort du calvaire n'est pas la fin. Tu as triomphé de la mort même en ressuscitant et tu es vivant pour sauver quiconque s'approche de toi par la foi. Seigneur, chacun ici, nous avons tous le même commandement de s'approcher de toi par la foi, croyant que tu rémunères, que ce soit pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, que tu sauves ceux qui sont sous la condamnation, que tu donnes la vie à ceux qui sont dans la mort. Et Seigneur, les enfants de Dieu qui sont ici, on croit à ta grâce. Oh, qu'on ne vive pas dans le passé avec les condamnations, les choses qu'on peut avoir, les regrets, les remords. Oh, mais Seigneur, on veut tourner les regards vers toi afin d'être rayonnant de joie. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.